Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. On va revenir sur l'actualité la plus immédiate dont parlait d'ailleurs dans cette édition l'un de nos correspondants permanents en Israël, Dror Eben-Sapir. Le ministre israélien de l'économie, Nir Barkat, a déclaré qu'il respecterait la décision de la Cour suprême si elle annulait un texte de loi figurant dans la réforme drastique du système judiciaire. Et il est en cela en opposition directe avec un autre ministre du gouvernement, celui de la justice, Yariv Levin, qui lui a juré que la coalition ne saurait accepter un tel développement. Et d'ailleurs, notre correspondant en Israël, Dror Eben-Sapir, posait la question si d'aventure le gouvernement passait outre la décision de la Cour suprême. Eh bien, il posait cette question, à savoir tous les services de sécurité en Israël, que ce soit l'armée, le service de sécurité intérieure, le Mossad, les services de renseignement dans leur ensemble, à qui devront-ils obéir ? À la décision de la Cour suprême ou à celle du gouvernement ? En tout cas, certains ont déjà répondu, ils respecteront la loi qui est représentée par la Cour suprême.
Oui, certainement. Ils ont tout fait pour rassurer les Israéliens, en tout cas ceux qui respectent encore et toujours l'état de droit. Ils ont dit que, sans la moindre hésitation, ils respecteraient le droit, donc la loi, donc les instructions de la justice. Le tribunal, la Cour suprême, les juges, c'est le seul système ayant autorité sur l'armée, sur le service de sécurité intérieure et sur la police. Les chefs de ces organisations respectives l'ont dit clairement. Maintenant, on a un ministre de la justice qui est en guerre ouverte contre la justice. On ne peut pas dire que tous ses collègues le suivent aveuglément. Jusqu'à présent, certains ont préféré se taire. Et aujourd'hui, Nir Barkat est le premier à briser ce silence en disant clairement que c'est à la Cour suprême qu'il faudra obéir au cas où il y aurait un conflit entre les décrets de celle-ci et les décisions du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement ou d'un ministre quelconque. Les choses ont été dites de manière très claire. Peut-être d'autres députés et ministres de la majorité le suivront, peut-être pas. On sait qu'en catimini, un certain nombre de membres de la majorité le disent déjà à des journalistes, mais ils préfèrent garder l'anonymat. On se demande pourquoi, de quoi ont-ils peur ? Pourquoi n'expriment-ils pas leur opinion sur un sujet aussi brûlant, sur un dossier qui divise la société si profondément ? Mais en tout cas, peut-être que maintenant, avec Nir Barkat en tête, d'autres le feront. On verra bien, mais on est rassuré, il faut bien le dire, on est rassuré par les assurances des chefs de tous les services, si on peut dire ainsi, du maintien d'ordre, l'armée, la police et le service de sécurité, parce que sans eux, ça serait vraiment l'anarchie. Contrairement au slogan de certains ministres qui connaissent l'anarchie de très près, personnellement, là, si ces institutions n'obéiraient pas aux instructions des juges, ça serait une véritable anarchie et on croit savoir aujourd'hui qu'on n'en arriverait pas là.
Il y a une chance pour que ce projet de réforme judiciaire soit adopté avant la pause parlementaire des fêtes juives de Pâques ?
En partie seulement, parce que la majorité a bâclé son travail, on ne peut pas être vraiment surpris, elle a trop fait trop vite, et il est impossible, même en brûlant les étapes, ce que la majorité ne se prive pas de faire, même en brûlant les étapes, elle ne parviendra pas à faire adopter toutes les lois qu'elle a souhaité faire adopter avant les fêtes. Il y aura donc une loi, mais pas n'importe laquelle, la loi sur la commission de désignation de juges. Il y a une loi donc qu'ils tenteront de faire passer, et ce sera l'étendard de cette révolution, révolution judiciaire, juridique, je ne sais même pas comment la qualifier, annoncée par cette majorité. Si elle parvient à le faire, eh bien, cela voudra dire que l'opposition, que la coalition en place, la majorité du moment, pourra faire main basse sur les nominations des juges à la Cour suprême, et donc cette Cour suprême serait entièrement politisée. C'est pour ça que cette initiative est extrêmement grave. Ça peut avoir des implications sur absolument tout, non seulement sur la vie quotidienne des Israéliens, c'est déjà très important, mais il n'y a pas que ça. Ça peut avoir des implications directes sur la sécurité, ça peut avoir des implications directes sur l'économie et évidemment sur le statut international du pays. Et donc, la majorité fait la sourde oreille à tous les avertissements. On en a encore eu la preuve aujourd'hui, puisque un document vraiment retentissant des plus grands experts, des plus grands fonctionnaires du ministère de la Finance a été fuité. Il paraît qu'ils ont averti le ministre des Finances, chiffres à l'appui et analyse économique à l'appui, que cette réforme pourrait coûter des milliards, des centaines de milliards de shekels à Israël, mais le ministre prétend que ce ne sont que des rumeurs et des suppositions, des hypothèses sans la moindre preuve, et qu'il ne faudrait pas semer la panique sur une base aussi, aussi fragile. Eh bien, fragile, comment dire, ces gens-là, les gens qui ont rédigé ce document, c'est quand même des experts en économie, alors que le ministre des Finances, c'est surtout quelqu'un qui s'est distingué par une tentative d'attentat terroriste pendant le fameux retrait de Gaza, pour ouais. lequel il a été placé en garde à vue à l'époque.
Et puis,
ses connaissances en économie sont zéro.
Oui, mais par contre, il sait que le peuple palestinien n'existe pas.
Ah oui, ça, il est un grand expert en histoire, et surtout en histoire du Proche-Orient, et il a déclaré que le peuple palestinien n'existe pas, il l'a fait à Paris, il a d'ailleurs enfoncé le clou en disant que cette vérité devrait être entendu par l'Élysée et par la Maison-Blanche. Je crois que le message est bien passé, puisqu'il y a eu des réponses du berger à la bergère aujourd'hui, des deux côtés. Et il a, par la même occasion, créé un incident diplomatique grave. Bon, évidemment, par ses déclarations, il y a un incident diplomatique avec tous les pays arabes qui ont des liens avec Israël, ceux qui ont un accord de paix avec nous, et ceux avec qui Netanyahou prétendait signer un accord de paix comme l'Arabie Saoudite. Bon, je crois que on peut toujours rêver, ça ne se passera pas pendant son mandat. Mais il a créé aussi un très grave incident avec la Jordanie, puisqu'il a fait ses déclarations près d'une carte du très grand Israël qui inclurait le territoire de la Jordanie, donc en fait le territoire du mandat britannique, comme si on était aujourd'hui dans les années, je ne sais pas moi, 1917-18, juste après la déclaration Balfour et l'instauration du mandat britannique. Évidemment, les Jordaniens ont peu apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont convoqué l'ambassadeur israélien à Amman pour protester fermement. Et le ministère des Affaires étrangères et le ministre ont dû faire des déclarations pour calmer le jeu. Je ne crois pas que ces déclarations diplomatiques aient pu contribuer à quoi que ce soit à calmer les esprits à Amman. Et donc, on a un ministre des Finances qui continue à jeter de l'huile sur le feu, ce qu'il a toujours fait dans le passé, d'ailleurs.
Yigal Palmore, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien. Merci, bonsoir.
Bonsoir.